Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 21 avril. Bonjour Amandine.
Et bonjour Yves, bonjour à tous. Et nous devrons peut-être bientôt prendre le métro ou le bus masqué. Rien n'est tranché pour l'instant. Mais c'est ce que réclament les principaux opérateurs de transport en commun, la RATP notamment. Thierry Babeck est secrétaire général du syndicat UNSA, le premier syndicat de la RATP.
Nous, on réclame, même si ce n'est pas forcément suffisant à 100%, que tous les voyageurs soient obligatoirement munis d'un masque de protection. C'est le strict minimum, parce que la distanciation sociale, ça sera très compliqué sur beaucoup d'endroits de nos réseaux. Sur certaines branches du tramway C3 Nord, on est déjà à plus de 60% de l'offre normale et les distanciations de plus d'un mètre ne sont pas respectées. C'est impossible, il y a trop de monde. La solution minimale, c'est le masque.
Thierry Babeck de l'UNSA RATP au micro RTL de Mourad Jabari.
Alors, ces masques seront-ils obligatoires? Si oui, où pourra-t-on les trouver et à quel prix? On pose la question à Elisabeth Borne. La ministre sera tout à l'heure notre invitée sur RTL à 8h20.
En attendant, Air France va désormais distribuer des masques à tous ses passagers dès lors que les vols atteignent plus de 50% de remplissage. Annonce faite après ces images qui ont fait polémique, celles d'avions bondés avec des clients sans protection. Véronique en a fait la meilleure expérience la semaine dernière. Soignée pour un cancer à Paris, elle devait à tout prix prendre un vol pour rentrer chez elle à Nice.
J'ai embarqué donc dans l'avion et là tout doucement l'avion a commencé à se remplir. Moi à côté de moi j'avais un couple avec un bébé et devant il y avait un autre couple avec un enfant d'à peu près 5 ans. Et là ça commençait à se remplir. En fait l'avion était complet, mais complet. Les gens devant moi n'avaient pas de masque. Je peux vous dire que je suis restée bloquée sur le hublot quoi. Je veux dire j'étais vraiment paniquée. Je me disais non mais c'est pas possible. Alors je me disais bon allez c'est jusqu'à Nice. Tiens le coup, colle-toi au hublot. À la limite de se retrouver à deux sur un banc de 3, ok, peut-être, et encore que c'est limite, mais bon, mais pas, sûrement pas un avion complet. Non, là, c'est, il faut arrêter, là, c'est pas possible.
Un témoignage recueilli pour RTL par Arnaud Touche. La grande inquiétude, bien sûr, c'est d'assister à une deuxième vague. Certes, le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser, mais les décès, eux, progressent toujours. On a dépassé hier en France le cap des 20 000 morts, 20 265. C'est plus que la grande canicule de 2003, a précisé hier soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé.
Notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux et déplore plus de 20 000 décès. Il s'agit donc d'une pandémie meurtrière qui est loin d'être terminée et qui a tué davantage en France que toutes les épidémies saisonnières de grippe, même les plus sévères, même les plus longues, puisque celles-ci ont tué au maximum 14 000 personnes dans notre pays et qui aussi a tué davantage que la canicule de l'été 2003, au cours de laquelle nous avions déploré 19 000 décès.
Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors de son point quotidien hier soir.
Des décès qui, pour plus d'un tiers, ont eu lieu en EHPAD.
Certains ont rouvert aux familles dès hier, comme l'avait demandé dimanche Édouard Philippe. C'est le cas à Strasbourg, où les mesures de précaution, bien sûr, restent extrêmement strictes. Camille, 85 ans, a enfin pu voir sa fille Christine pour la toute première fois depuis 35 jours.
Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vu. C'est formidable.
Ça fait un long moment qu'on ne s'était pas vu. On s'entend au téléphone, mais bon,
c'est
sûr, c'est pas pareil, oui. Les enfants, ils ont fait la visio. Ça t'a bien plu aussi?
Oui, sur une tablette, je les ai vus, les petites. Mais oui, il manque des enfants, surtout les petits.
Oui, c'est sûr. Ça fait combien? 5 semaines? 6 semaines qu'on ne s'est pas vu?
Oui, pas plus. Si on est de nouveau ensemble, c'est beaucoup mieux. Le bonjour à ton chéri.
Oui. À ce soir au téléphone.
Oui. Ensemble, c'est beaucoup mieux.
Et retrouvailles
oui, qui font du bien au micro RTL de Yannick Holland.
7h34, Emmanuel Macron lui a rendez-vous avec le pape.
Un rendez-vous à distance, bien sûr. Ça va se passer par téléphone et ce sera tout à l'heure à 16h, William Galibert.
Oui, c'est un coup de fil qui peut surprendre. Les échanges entre le pape et le président ont toujours été courtois, plutôt chaleureux, mais ils sont très peu nombreux. La dernière fois que le pape François et Emmanuel Macron se sont parlé quelques minutes, c'était il y a à peine un peu plus d'un an, juste après l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame. Cette fois-ci, d'après l'Élysée, il sera avant tout question de solidarité internationale. Les deux hommes vont tenter d'allier leur pouvoir d'influence. Dans son message de Pâques, le pape a réclamé l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Emmanuel Macron, lui, vient tout juste de proposer la même chose en faveur des pays africains. Il y a aussi des questions plus immédiates, très concrètes, comme la réouverture des lieux de culte. Le sujet dépasse la seule église catholique. D'ailleurs, juste après ce coup de fil papal, Emmanuel Macron en discutera lors d'une conférence téléphonique avec tous les représentants des cultes. Quelle date ? Quelles conditions pour la reprise des cérémonies religieuses publiques ? Les autorités n'ont pas encore tranché et se préparent aussi au Ramadan qui débutera dans quelques jours en plein confinement pour des millions de fidèles.
William Galibert du service politique de RTL. À ce jour, c'est toujours l'Europe qui paye le plus lourd tribut à la pandémie. Plus de deux tiers des 168 000 morts recensés dans le monde. Une nouvelle encourageante toutefois. Pour la première fois hier en Italie, le nombre de malades a commencé à baisser.
7h36. Côté sportif, la perspective d'une reprise du championnat de Ligue 1 s'éloigne, mais alors chaque jour un peu plus.
Oui, hier, il y avait cette tribune publiée dans le quotidien Le Monde. Plusieurs joueurs qui appelaient les instances du foot à renoncer. Eh bien, ce matin, c'est le patron de l'OGC Nice qui prend la parole. Il évoque, lui, une reprise après l'été et un début en janvier pour la nouvelle saison. Écoutez, c'est très simple.
Plutôt que de faire les choses dans la précipitation pour finir un championnat, enchaîner sur un autre, avec des cadences qui pour moi ne sont pas responsables, on finit notre championnat, mais tranquillement, on redémarre peut-être fin août, début septembre, à un rythme normal de matchs toutes les semaines, des Coupes d'Europe normales, et on finit fin l'automne, début de l'hiver, tranquillement. On reprend le championnat d'après, à partir de fin janvier, parce qu'il y a un euro au mois de juin, mais on pourrait même imaginer décaler l'euro à la fin de l'automne, comme on aura la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et si on prend ce planning glissant, on fait tout glisser. Les contrats du joueur qui s'arrêtent au 30 juin, vous les faites glisser en fin d'année. Le mercato, vous le faites en fin d'année. Ça donne le temps de prendre en compte l'aspect sanitaire. Et pour moi, c'est de la sagesse. On sera obligé de s'harmoniser au reste de l'Europe. On ne pourra pas être différent des autres. Mais je pense que dans des crises pareilles, se donner du temps pour faire les choses le mieux possible, en harmonisation, ça doit faire partie de nos réflexions.
Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice, joint pour RTL par Mickaël Lefebvre. Et puis les fans de tennis, eux, ont eu droit à un match d'anthologie hier. Match entre Rafael Nadal et Roger Federer. Alors, c'était bien sûr pas du vrai tennis, mais une séance, on va dire, de chambrage à distance et en direct. Nadal, d'abord, a visiblement eu du mal à se connecter.
Finally. Are we in? Did we make it?
Mais ça y est, on y est enfin arrivé. Et puis ensuite, Federer a pris de ses nouvelles, espérant que l'Espagnol oublierait un peu comment on joue au tennis. C'était amusant, ça s'est passé devant des centaines.